Bonjour à chacun. Alors là, quelques cris d'enfants. Ça fait un peu ça, cet effet, parfois les rentrées. Bon, c'est plutôt rare. En cette matinée où nous nous retrouvons, où nous voulons louer notre Seigneur, c'est aussi l'occasion pour nous de, bien sûr, nous assembler, mais de nous retrouver, peut-être après un temps de répit, un temps de repos. Et dans nos existences, peu importe nos âges, alors c'est vrai que les enfants nous ont quittés, mais nous l'avons été autrefois, je crois. Vous l'avez tous été, j'espère, enfant un jour. Oui, vous l'êtes peut-être encore un peu, si ce n'est au moins enfant de Dieu. Nous savons que, voilà, il y a des moments attendus, des rendez-vous obligés, ce que l'on ne peut même pas éviter, voire mieux, du moins il faut l'espérer, que l'on prépare avec soin, bien à l'avance. Certains de ces moments reviennent d'ailleurs régulièrement, aux mêmes périodes, à un rythme inlassable. Tel, alors, ça sera peut-être moins le cas pour vous, mais tel les rentrées scolaires, et beaucoup demain vont devoir vivre cela, ou vont aimer vivre cela, je l'espère. Il y a aussi les rentrées universitaires qui se font aussi de manière régulière, quand nous en sommes à ce stade, ou tout simplement, pour beaucoup d'entre nous, le retour au travail après une longue absence, et suite à un repos bien mérité. Il y a aussi d'autres moments dont on maîtrise plus ou moins bien l'issue. Ce sont ces périodes de transition dans une vie. Telle, alors je vais reprendre des schémas un peu cités, telle l'arrivée, pourquoi pas, dans un nouvel établissement scolaire, vous passez tout à coup au collège, voire au lycée, voire à l'université, ou alors un nouveau bureau ou lieu de travail, une nouvelle entreprise, ou que sais-je encore. Ces étapes, quand elles arrivent, nous marquent, voire nous chamboulent. Et de points communs, il semble qu'elles partagent le plus souvent l'idée qu'elles s'annoncent, bien en amont, qu'elles nous laissent un temps pour nous préparer ou nous adapter. Alors ça ne veut pas dire qu'on est pleinement prêt hein, quand elles arrivent. J'arrête cela. Et j'aimerais regarder un petit peu avec Dieu, comment il fonctionne avec nous. Avec Dieu, quand on regarde notamment à l'expérience des disciples, les choses semblent pourtant bien différentes. Tant on a l'impression que Dieu, quand il nous interpelle, quand il nous invite à un changement, quand il nous appelle, qu'il nous prend au dépourvu. Il vous saisit comme au coin d'une rue pour nous dire « Hé, et si tu me suivais maintenant ?» Car ce n'est pas là ce que l'on peut entendre quand nous venons à parcourir l'évangile, ou certains évangiles. Prenons Matthieu ou Marc, dans ces brefs instants où Jésus tout d'un coup vient, croise l'un d'entre eux et les appelle à le suivre. Et cela donne ceci, je vous donnerai la référence après, ce n'est pas le texte que nous allons étudier ensemble. Mais il est dit à un moment, dans l'un des premiers évangiles, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac, c'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Puis il alla un peu plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ici, nous étions dans l'évangile de Matthieu. Jésus semble surgir tel un éclair dans la vie de Pierre et d'André, ou encore dans celle de Jacques et de Jean. Et chez Marc, il en est quasiment de même. Il faut l'avouer, cela surprend. Imaginez, Jésus débarque à votre bureau et vous dit « Maintenant, tu me suis. Laisse ton ordinateur en plan, dis adieu à ton patron et on va faire un petit bout de chemin ensemble. » C'est un peu comme cela que l'on l'entend a priori dans ces évangiles. Cela surprend, cela peut même déranger, tant Jésus semble avoir une sorte de pouvoir même hypnotique. Il leur dit « Toi, suis-moi » et la personne s'exécute, et c'est aussitôt. Mais n'en oublions jamais qu'un récit comme celui d'un évangile a une intention, un message qui fait sens. Et parfois, pour un même fait, par exemple ici, l'appel des disciples par Jésus, une autre version de ce même récit va nous offrir une tournure différente. comme pour nous dire quelque chose d'un peu différent. Non pas pour contredire l'autre version de l'autre évangéliste, mais pour enrichir ce que nous apprenons à propos de notre vie, de l'appel que Dieu peut avoir pour nous, de ce qu'il a déjà accompli et de qui il est pour chacun d'entre nous. Aussi ce matin, je vous invite à prêter grande attention maintenant à ce récit qui va nous intéresser, celui que nous allons trouver dans l'évangile de Luc. Alors, je vous invite à prendre Luc dans son chapitre 5 et nous allons aller lire ensemble les 11 premiers versets de ce chapitre. Donc Luc, chapitre 5, les 11 premiers versets. Puis je vais le prendre, moi, dans la traduction du Semeur, que j'affectionne toujours. Donc Luc, chapitre 5, les 11 premiers versets. Voilà. N'hésitez pas à lire, sinon au mur, le texte est déjà là. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit deux bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leur associé dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Et nous arrêtons là notre lecture. Le même récit, peu ou prou. Ainsi, chez Luc, la dynamique de l'appel n'est plus tout à fait de l'ordre du surgissement inattendu. Ce n'est pas Jésus qui passe par la plage, voit deux gaillards et leur dit « Tiens, toi et toi, vous me suivez. » Les choses se déroulent un peu autrement, telles que nous pouvons l'entendre ici. Le récit se fait plus riche par la présence de cette pêche miraculeuse qui va précéder l'appel. Et ce récit, par contraste avec les deux autres évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, regorge de quelques pépites qui seront riches, je l'espère, pour nous ce matin d'enseignement. En effet, ce récit nous rapporte des éléments à des questions fondamentales pour toute vie chrétienne. Et je crois qu'on peut y entendre, réponse à une question comme « Qu'est-ce que vraiment qu'un disciple ?» Quelle est l'essence même de la mission d'un disciple? Alors, je ne vais pas m'attarder trop longuement, je cherche à rester court, mais venons-y quand même. Et revenons à Luc et aux informations particulières qu'il nous offre, lui. Tout d'abord, notez une chose qui contraste d'ailleurs avec Matthieu et Marc. Nous découvrons non plus soudainement les disciples lors du passage de Jésus là où ils travaillent, là où ils pêchent. Notez bien que chez Luc, alors nous ne l'avons pas lu, mais je vous en donne là la référence. Notez bien que chez Luc, au chapitre qui précède, au verset 38 du chapitre 4, nous apprenons là que Jésus côtoie déjà ses pêcheurs. Il les connaît. Autrement dit, avant que Jésus ne vienne à les appeler, à le suivre, mutuellement ils se connaissent. Tant Jésus que Pierre, André, Jacques, etc. car Jésus a déjà le privilège de les côtoyer, de bénéficier même de l'accueil de Simon sous son toit, ainsi que de sa belle-maman, puisqu'on apprend là qu'il l'avait guéri. Alors, bien évidemment, que ce soit chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, rien ne nous dit de comment ils se sont rencontrés pour la première fois, comment cela se fit. Rien ne nous est dit de cette première rencontre entre eux et Jésus et ses pêcheurs de Galilée. Mais l'on peut, à coup sûr, du moins je vous le propose, se dire que Simon comme André, ou Jacques, ou Jean, furent très certainement au profit de l'enseignement du Christ. Car c'est ce qu'il fit premièrement. Jésus, dans son ministère, commença à annoncer la venue du royaume. Et il le fit pendant un long moment dans cette région-là, en s'établissant là d'ailleurs. Oui, Jésus donnait dans cette région, et notamment dans cette ville de Capernaum, ceci. Il enseignait. Et on peut imaginer que tant Pierre et les autres l'eurent entendu, s'intéressèrent à son enseignement et certainement allèrent le voir. Pourquoi pas pour lui poser certaines questions. Et à un moment donné, pour que Pierre puisse accueillir Jésus sur son toit, soit il s'est passé une chose ou l'autre. Soit Jésus, et on sait qu'il l'a eu fait ailleurs, s'est invité chez Pierre, lui a dit « Maintenant je veux résider chez toi, peut-être. » Ou inversement, Pierre, dans son zèle et dans son élan qu'on lui connaît et qu'on lui connaîtra après, s'est dit « J'aimerais que tu demeures chez moi ce soir. Et si tu veux bien, encore demain. » Etc., etc. Mais toujours est-il que Pierre accueille Jésus chez lui. Jésus dort sous son toit. Ainsi donc, il est très probable que Simon, comme les autres, furent pendant tout un temps membres de cette foule. Ils étaient comme cette foule. Ils serraient Jésus, comme le dit Luc, ils se pressaient autour de lui. Et ces termes que Luc emploie pour décrire cette foule assoiffée de la parole du Christ nous en disent beaucoup sur l'engouement de ces gens, de toute cette foule, à vouloir écouter ce rabbi, ce maître itinérant, cet homme qui dit la foi, qui dit qui est Dieu, une espèce de théologien itinérant. Ça se voit de moins en moins, mais autrefois ça avait l'air de fonctionner. Et ils entendent parler du royaume de Dieu, qui vient, qui est là, qui se fait présent désormais. Oui, Luc, ici, quand il parle de la foule, par les termes qu'il choisit, cette foule qui sert Jésus, alors, elle n'est pas en train de l'écraser, ce n'est pas une foule de fans, mais qui le presse, dit l'enthousiasme de cette foule, qui a soif de venir l'écouter, et non pas une fois, mais jour après jour, car Jésus offre de ce temps. Elle vient aussi pour le voir guérir des malades. Et la belle-maman de Simon fut un cas, notamment. Et voyez, dans ce chapitre 4, la réaction que cela génère aussi dans cette foule. On apprend que la belle-maman de Simon a été guérie et on vient présenter d'autres malades tout de suite après. Car on s'attend à beaucoup de choses de cet homme. Mais pour autant, et j'en reviens à cette foule, à cet enthousiasme que souligne Luc à propos d'elle, et dont faisaient au moins partie pendant tout un temps, et Simon, et André, et les autres. Cet enthousiasme qualifie-t-il l'ensemble de cette foule à mener une vie de disciple? Est-ce que l'engouement de cette foule fait d'elle, de toute façon, un ensemble de disciples? Ils ont soif de la parole. Ils viennent jour après jour écouter Jésus. Oh, est-ce que cela suffit? Le récit n'y répond pas très directement, mais le fait entendre quand même. Non. L'enthousiasme que peut susciter Jésus dans le cœur des gens ne suffit point. Il faut encore autre chose. Il faut quelque chose de plus grand, de plus fort, pour que l'enthousiasme du cœur amène à la vie de disciple, ouvre à cette vie, amène cette transformation dans chacun. Mais alors quoi? Qu'est-ce qui va distinguer nos quatre gaillards, ces quatre pêcheurs, de l'ensemble de cette foule, sachant qu'il devait y avoir certainement d'autres pêcheurs. Ils n'étaient pas les quatre uniques pêcheurs de toute la contrée. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui a fait cette différence? Pourquoi eux sont devenus disciples et parmi tous ces autres, dans la foule, tous ne le sont pas devenus, alors qu'ils étaient enthousiastes? En soi, il y a très peu de choses qui les distinguent du reste de la foule. D'ailleurs, notez que la mention de Simon au chapitre précédent, Luc l'évoque. C'est la première fois qu'on entend parler de ce Simon, dans le fait qu'il accueillit Jésus sous son toit, ne nous apprend à ce moment-là rien sur le personnage de Simon. Or, bien sûr, pour tout disciple du Christ, pour tout chrétien, si vous préférez, de voir déjà apparaître le nom de Simon, met la puce à l'oreille, on se dit « Ah, ça doit être lui !» Surtout quand on a peut-être été au profit des autres évangiles. Mais ici, effectivement, seul un disciple de Jésus connaît déjà le personnage en le voyant mentionné. Il accueille, un certain Simon accueille Jésus sous son toit, et sa belle-maman se fait guérir. Ça doit être lui, ça doit être Simon-Pierre, je le crois. L'homme de foi Simon, c'est l'apôtre ici qui surgit, mais pour les autres. Et dans la dynamique de ce que Luc veut dire, pour toute autre personne qui ne connaît pas forcément encore le Seigneur, qui ne sait pas qui sont les apôtres, c'est un Simon parmi les autres. Il s'agit juste d'un Simon parmi tant d'autres Simons, comme il y en avait beaucoup en Galilée et ailleurs. Ce n'est que plus loin, dans l'issue de notre récit, que Luc dévoile l'homme Simon, celui qui va devenir disciple. Et c'est dans ces instants que l'on vient à découvrir ce qui fit de Simon, comme des trois autres pêcheurs galiléens, des disciples de Jésus. Car à l'image de la foule, nous ne pouvons qu'imaginer que eux aussi reçurent avec enthousiasme l'enseignement nouveau de Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'ils aimaient à le suivre à chaque fois que Jésus venait vers son peuple et donnait un temps d'enseignement. Très certainement, comme beaucoup, ils buvaient à sa parole et persévéraient même jusque tard le soir pour profiter de celui que beaucoup appelaient rabbi, qu'on traduit par maître ici, souvent. L'écoute, l'accueil, on va dire l'adhésion à son enseignement, l'enthousiasme débordant que suscite Jésus, chacun d'eux partage cela, plus ou moins, tout comme la foule. Ils aiment Jésus comme la foule aima Jésus, dans l'instant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sans l'avoir précisé jusqu'ici, il a fallu quelque chose, un déclic, un quelque chose d'autre qui fit basculer leur vie. Et c'est ce qui se déroula dès les premiers instants du verset 4, dans ce que Luc nous rapporte et que nous n'entendons pas chez les autres, justement. Matthieu et Marc ne cherchent pas à le dire. Ils veulent mettre l'accent sur autre chose. Ils ne s'intéressent pas à ce qui s'est déroulé. Mais Luc, lui, ça l'intéresse. Il veut le dire et il le fait. Et que dit-il à partir du verset 4? Que voyons-nous? Qu'entendons-nous? Jésus vint s'adresser à eux. Non, pour pouvoir leur dire tout de suite, toi, suis-moi. Il va y avoir deux, trois choses qui vont se passer juste avant. Et il vient d'abord s'adresser à Pierre. Peut-être parce qu'il voit qu'il est un petit peu le leader parmi ces quelques pêcheurs. Et qu'est-ce qu'il leur demande? Un acte banal. Quelque chose qui fait partie de leur ordinaire. Il leur demande, il leur commande même d'aller pêcher à nouveau. De ne pas rester sur le bord, mais d'aller plus loin, sur ce lac. Alors dans les autres évangiles, on entend parler de mer, mais ce sont racontés par des juifs qui voient en lac de Galilée une mer. Pour un grec comme Luc, le lac de Galilée reste un lac. Ils n'ont pas du tout la même manière de voir les choses, mais peu importe. Jésus demande, commande à ces pêcheurs qui ont passé la nuit à essayer de pêcher et n'ont rien ramené, de retourner et d'aller pêcher. Ils sont revenus bredouilles, et c'est leur métier. Un charpentier qui donne conseil à un pêcheur sur la manière de mener sa barque. C'est un peu n'importe quoi. Enfin, en théorie, c'est n'importe quoi. Ça devrait l'être, dans à peu près toutes les circonstances posées. Imaginez-vous, un inconnu qui fait un métier mais qui n'a rien à voir. Ou alors un petit enfant de 10 ans qui vient, débarque à votre bureau et dit « Si tu faisais comme ça, crois-moi, ça marcherait mieux. » Il y a de grandes chances en général que vous dites « Merci, c'est gentil, si vous êtes poli, ça peut se passer autrement. » Et puis vous allez continuer à faire comme d'habitude. Mais là, effectivement, il y a quelque chose de différent. Et c'est ça qui est important. Ce charpentier qui vient donner un conseil à un pêcheur, il y a là, a priori, une aberration. Pour qui ne connaît pas Jésus avec les yeux de la foi? Mais pour, justement, Pierre et aussi ses quelques compagnons, quand Jésus vient à leur dire cela, il y a invitation à faire confiance. même si ça paraît complètement aberrant. On le sait, c'était la nuit, on y a passé tout ce temps, il y faisait plus frais, les poissons, on pouvait les pêcher. Là, il fait chaud, ils vont se cacher au fond, pourquoi on irait? On ne va pas les avoir. Ce n'était pas la bonne journée. Mais effectivement, quand Pierre entend cela, il n'entend pas un délire, une aberration, il entend une invitation à accorder un peu de foi, au moins, à l'auteur de ce conseil étonnant. Ainsi, Pierre, comme les autres, font remarquer que ce qu'il demande, ça ne va pas. Il le souligne, gentiment. Mais il va s'exécuter. Et ensemble, ils y vont. Et ils vont en ressortir transformés. Notez d'ailleurs que le miracle provoqué par Jésus, ici, n'a pas pour but de les aider dans leur entreprise de pêche. Ils étaient revenus bredouilles et Jésus fait abonder et la fin du mois devrait être à peu près correcte. Je parle pour aujourd'hui. À l'époque, on ne fonctionnait pas comme ça. C'était au jour le jour. Ce n'est pas son intention. Jésus n'est pas là pour combler le déficit dans la petite entreprise de Pierre. C'est tout autre chose qu'il veut faire avec ces poissons. Car, certes, on pourrait se dire, d'un point de vue des affaires, Jésus les avait bénis, il les avait fait prospérer. Et pourtant, rien de cela n'a d'importance. Tant pour Pierre, pour André, pour Jacques, pour Jean et aussi pour le Christ. Ces poissons en quantité dans leur filet n'ont qu'un seul objectif, au bout du compte. Transformer le cœur de ces hommes. Oui, Jésus, en faisant abonder une pêche peu ordinaire, veut transformer le cœur de ces hommes qui déjà l'aimaient, tout comme la foule jusqu'ici. Cet enseignement, ce théologien certainement doué, tel qu'il devait être perçu autrefois, il désire les transformer pour qu'ils s'attachent à lui. Oui, Jésus cherche à transformer le cœur de ces hommes, afin que, en s'attachant à lui, ils puissent devenir désormais et progressivement le centre même de leur existence. Cette invitation à aller au large avec lui pour recueillir quelques poissons n'est autre que le signe de l'appel du Christ Jésus à le suivre dans une vie nouvelle. On va aller là où vous ne vous attendez pas à quelque chose, parce que c'est moi qui vous y invite et vous allez me suivre. Jésus, tout simplement, par cette pêche, les invite déjà à faire chemin vers une vie transformée, une vie où lui sera maître à bord. Comme je vous ai dit, l'ordre de Jésus est absurde. Un pêcheur le sait, Pierre lui fait remarquer gentiment, mais s'exécute pour autant, parce qu'il avance avec la foi qu'il a à ce moment. Une foi qui est déjà suffisante pour lui faire confiance, mais va avoir encore besoin de soutien, parce qu'il va avoir des petits, des hauts et des bas. Ça viendra. Et quand le miracle a lieu, quand les poissons sont si abondants que leur bateau et le bateau de leurs collègues commencent à s'enfoncer dans l'eau, Pierre a peur. Il craint. Enfin, il craint, dans le bon sens. N'entendez pas dans l'autre sens. Mais la crainte de Pierre face à ce miracle n'est pas tant générée par le grand nombre de poissons pêchés que par ce qui est plus important que tout ça. Car quand Pierre voit ces poissons qui regorgent dans sa barque, de quoi a-t-il peur? Il voit Jésus autrement. Tout à coup, ce n'est plus le Jésus dont on a soif d'entendre la parole, le Jésus qui aussi fait des miracles, tel peut-être le nouvel Élie ou un nouvel Élie. Ce Jésus-là, c'est un tout autre personnage qu'il découvre là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'abaisse, qu'il le craint, parce que Jésus devient tout à coup pour lui le Seigneur. Je ne peux plus trop employer le mot maître, quoique je vais le faire encore, mais cette fois-ci, il résonne dans ce sens-là. Oui, la crainte de Pierre est orientée ou dirigée ou surgit à cause de la seigneurie de Jésus qui éblouit tout à coup son existence. Le Jésus qu'il vient de voir là dans la barque suite à cette pêche, dans son cœur n'est plus le même Jésus. Lui a fait du chemin. Jésus n'a pas changé, soyez-en sûrs. Mais pour Pierre, il découvre un autre Jésus, bien plus grand encore. Désormais pour Pierre, il est évident, Jésus gouverne à toutes choses. Même aux poissons, ce serait cool, hein. Il n'y a même pas besoin d'un pas avec Jésus, il fait tac, 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 ou ce que vous voulez d'ailleurs, ou même rien du tout, il prie peut-être. Et les poissons viennent à vous. Vous pourrez presque sauter dans le bateau, il n'y aurait même pas besoin de jeter le filet, s'il le voulait. Hein. Bon, ce serait un peu ridicule, mais oui, pour Pierre, tout à coup, suite à ce miracle, il est évident que Jésus est Seigneur. Jésus gouverne à toutes choses et il désire surtout et plus encore être maître sur sa vie. Car c'est ça qu'il perçoit, Pierre, là déjà. Et c'est ça qui le fait à la fois plier, craindre Jésus et lui dire qu'il se sent misérable, indigne devant lui. Et c'est là qu'il y a la transformation. C'est là que tout d'un coup, Jésus va passer de, on va dire, du fan groupi à l'image ou presque de la foule. Alors lui, peut-être avec plus, parce qu'il en fait toujours un peu plus. À un disciple qui est prêt à vouloir suivre le maître. Car il entend ce que Jésus a voulu lui dire. Chose qui s'est passée à travers une pêche, extraordinaire certes, mais c'était presque dans son quotidien que Jésus l'a appelé, en refaisant quelque chose, mais en lui montrant qui lui est. Et parmi les pêcheurs réunis, oui, Pierre est le premier à le saisir. Soit peut-être parce que, voilà, dans sa tête, tout va très vite. Mais on entend aussi que les autres voient les choses d'une même manière. Et à quoi le voyons-nous ? Luc le fait entendre aussi par des petits changements dans la manière de dire les choses. Quand Pierre reçoit cet ordre, que dit-il ? Il dit « Nous, allons le faire ». D'accord, ça me paraît complètement aberrant, mais nous y allons. Il parle pour le groupe, il les représente. Il emploie ici un « nous » qui dit « on acquiesce à ton ordre, on te fait confiance, ça ne nous semble pas très sage, mais allez, quelques heures de plus, pourquoi pas ?» Mais quand tout d'un coup il fait face au miracle et qu'il voit qui est Jésus, et il sait que là, cet homme qui se tient devant lui est le Seigneur. Il ne peut plus dire « nous ». Ça semble tellement banal, il ne peut que dire « je ». Et pourquoi ce changement du « nous » au « je » a cette importance dans le texte ? Dans ce que Luc veut nous montrer. Car il n'est plus dans une obéissance face à un homme ordinaire. Il vient de commencer, lui, à s'attacher, à s'engager, à vouloir suivre ou à vouloir dire qu'il est prêt à suivre Jésus, tout en se sentant profondément indigne. Il ne peut plus parler pour les autres, il ne peut que parler pour lui, parce qu'il fait face, lui, au maître. Et c'est ce changement-là que Luc nous fait entendre. D'un nous, Pierre s'exprime pour les autres. Au jeu où seul lui, maintenant, peut que s'exprimer. Il ne peut pas le dire pour les autres. Mais Jésus l'interroge dans sa vie, dans sa foi, dans sa volonté ou non de s'engager à sa suite. Oui, Pierre ne peut plus parler au nom du groupe de pêcheurs qu'il représente. Le « nous » n'est plus de rigueur. Désormais, il fait face à Jésus et se sait humble, voire indigne, devant lui, malgré l'invitation du Christ qui se fait entendre déjà au fond de son cœur. Ainsi, et pour y revenir encore, la vie de disciple qui commence chez Simon, de longtemps où, voilà, ça sent la poiscaille. Hein. C'est pas ordinaire de se dire « ça y est, je suis prêt à suivre Jésus ». C'est pas encore son baptême, mais voilà, ça regorge de poissons, il baigne dedans. Et là, il se sait appelé. La vie de disciple qui commence chez Simon ne s'appuie pas donc seulement sur l'amour des paroles de Jésus. Et d'ailleurs de ce que Jésus représente ou représentait pour lui. Mais cette vie nouvelle, cette vie de disciple, est donc plus encore une réponse à l'appel. Et l'attachement au maître, avec à côté, et nous l'entendons dans la fin du récit, les abandons aussi qui l'accompagnent. Voilà à quoi, si on peut le dire ainsi, se résume la vie de disciple. Elle n'est pas simplement amour, confession de foi et autres. Elle est cette réponse à l'appel et attachement, véritable, sincère, définitif au maître, avec ses difficultés. Et il y en aura. Nous connaissons plus ou moins pour beaucoup la vie de Pierre. Mais nous percevons donc que la foi est donc synonyme d'obéissance au Seigneur. La foi n'est pas juste déclaration officielle avec tous les mots qui s'en suivent, de dire qui est Dieu, qui est le Fils, qui est l'Esprit Saint. Cela en fait partie, mais cela n'est pas suffisant. La foi est donc aussi synonyme d'obéissance au Seigneur, de la reconnaissance de sa divinité, et peut-être plus encore, pour jouer de ce mot encore ce matin, de sa seigneurie, non seulement sur les vents et les mers, et les poissons, mais plus encore sur notre propre existence. L'expérience de Pierre ne s'arrête pas tout à fait là, d'ailleurs. Elle ne s'arrête pas à l'obéissance initiale, à la découverte et la reconnaissance de la seigneurie de Jésus. La vie de disciple s'accompagne aussi de l'ordre de mission du disciple. Parce que Jésus ne lui dit pas « Maintenant, attache-toi à moi, et puis après, tu verras. » Déjà là, il lui dit ce qu'il attend de lui, en très très résumé. Et ce qu'il y a de bien, c'est parce que c'est très très résumé, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Pour ça, n'allez pas regarder à l'exemple de Pierre, entendez juste la parole du Seigneur. Oui, qu'est-ce que la mission du disciple, telle que Jésus l'offre à Pierre, on va le reformuler pour nous. Il l'invite à partager à son tour la bonne nouvelle. Pierre vient de la recevoir et cette fois-ci, il la saisit dans son essence. Il aura besoin d'être enseigné encore et ça continuera. Il aura besoin aussi parfois d'être confronté, éprouvé pour grandir dans sa foi. Mais là, ce jour-là, il a saisi la bonne nouvelle. Parce qu'elle vient de rentrer ici profondément et elle ne va plus en sortir. Même quand à un moment donné, il va renier. Il aura besoin d'être saisi, bien sûr. Ainsi, Pierre, comme les autres, est envoyé par Jésus. Oh, ça ne va pas se faire tout de suite, mais ça va commencer. Pierre est envoyé par Jésus. En tout cas, il lui fait déjà connaître cet ordre-là. Mais c'est un envoi aussi qui, nous l'entendons, se fait exigeant. On a l'impression que c'est très facile pour eux. Je ne sais pas comment ils ont fait. Car oui, la vie de disciple n'est pas que joie et facilité. Voire elle est rarement que joie et facilité, d'ailleurs, faudrait-il dire. Car on entend la vie de disciple ici, pour nos quatre pêcheurs, et Pierre notamment, cette vie de disciple s'attend à une radicalité dans notre attachement à celui que nous ne pouvons qu'appeler maître ou seigneur. Pour eux, nous l'entendons, elle peut exiger d'abandonner des liens qui nous retiennent. Ici, c'était un travail, un père, une famille aussi. Oui, la vie de disciple, comme je l'ai dit, peut se montrer exigeante. Elle nous invite à abandonner ce qui nous freine ou nous empêche de le suivre, tout simplement. Or, il n'est pas forcément question pour chacun d'abandonner job, travail si vous préférez, ou famille, à tout moment. Mais cela reste même plutôt exceptionnel, quoique. Mais ces liens, ces chaînes, ces entraves sont bien réelles. Et si ces entraves demeurent et nous lient encore à l'inertie de ce monde, alors il nous faut encore accepter avec lucidité que nous ne pouvons nous en défaire seuls. Pour suivre le Maître dans son appel. Car ça t'est pas adressé uniquement à quelques rares gaillards, plus solides que les autres. Il n'avait rien d'exceptionnel. Nous sommes tous invités à le suivre, à savoir abandonner ces liens dans notre vie. Et ils sont très différents. Est-ce qu'il y a des marins-pêcheurs ici? Non. Bon, donc c'est pas grave pour votre bateau, vous n'en aviez pas a priori. Pour le reste, vous verrez avec lui. Mais aussi dans l'instant qui suit, maintenant, laissons Dieu, par la voix de son esprit, nous aider à sonder notre cœur, aujourd'hui, à peser notre attachement à la suite de Jésus, jusqu'où nous sommes vraiment attachés à lui. Quelle est la force de notre attachement? Nous le sommes, oui, mais il faut peut-être espérer que ce lien soit plus fort encore et plus solide. Et aussi d'oser regarder à ce qui nous entrave, nous retient. Car je le sais, j'en suis sûr, pour chacun ou presque, nous avons certainement encore des liens, des attaches qui nous freinent, qui nous handicapent un petit peu dans cette vie de disciple à laquelle Jésus nous invite plus encore. Laissons-le nous sonder, laissons-le nous aider à discerner cela, laissons-le nous aider à voir ce qui prend parfois encore la priorité sur notre vie spirituelle, sur notre possibilité de le suivre, de le servir au jour le jour, voire même parfois humblement et simplement, D'ailleurs, ça doit toujours être humblement. Hein. Tout ce qui parfois me laisse aussi dans une forme de découragement, dans une quelconque forme de passivité face à l'invitation du Seigneur pour le suivre. Oui, nous pouvons le faire humblement et sans crainte, car Dieu, dans son amour, use d'une grande patience et désire nous soutenir pour avancer à la suite, à sa suite. Alors voilà, j'ai profité de ce temps, qui est un peu un temps de rentrée, de redémarrage, disons, parce que je ne sais pas si vous avez préparé un cartable avec plein de jolis crayons tout nouveaux. Non. Voilà, c'est peut-être un peu passé pour nous, mais il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du renouveau, du changement, du redémarrage au moins dans cette période de l'année. J'aimerais que maintenant, chacun, nous puissions faire silence et demander au Seigneur et sa force et son secours pour trouver en lui la force et la résolution pour vivre au concret la vie de disciple à laquelle il nous appelle. Qu'il puisse nous aider, nous, dans nos faiblesses, nos fragilités, pour nous défaire parfois encore de ces liens qui peut-être se rendent un peu solides et nous retiennent ou nous freinent, et puis on voit qu'on résiste. Car lui a le désir de nous encourager inlassablement. Il continue de nous appeler et il persévère. Voilà, faisons silence maintenant. Seigneur, en cette matinée, en cette période dite de rentrée, où nos activités reprennent, où les choses changent et évoluent, Seigneur, nous voulons nous présenter simplement et humblement devant toi ce matin. Nous voulons avant tout te remercier aussi pour ces temps de repos, ces temps de retrouvailles, ces temps où nous avons pu aussi profiter de nos familles, de ces dons qui viennent de toi. Nous voulons aussi regarder à toi et te demander ton aide, ton secours. Seigneur, puisses-tu nous aider à mieux te connaître, à savoir nous attacher à toi, à savoir répondre à ton appel. Non pas simplement chacun de notre côté, mais aussi en tant que peuple, en tant que petit groupe dans ce monde, à l'image de ces quatre pêcheurs qui, ensemble aussi, ont entendu ton appel et y ont répondu. Seigneur, oui, aide-nous, soutiens-nous. Montre-nous encore où sont nos résistances, ces liens, ces entraves aussi qui parfois nous limitent, nous freinent à ta suite. Seigneur, puisses-tu encore, par la puissance de ta foi, par la puissance de ce don de la foi que tu veux nous offrir, nous inviter à grandir, à avancer avec toi, à pouvoir venir nous engager devant toi pour peut-être ceux qui cheminent aujourd'hui depuis peu avec toi, et pour ceux qui te connaissent et peut-être aujourd'hui ne savent plus trop comment avancer à ta suite, Seigneur, puisses-tu à la fois nous restaurer, nous vivifier, nous donner cette force qui vient de toi, pour trouver la résolution de te suivre, de te servir avec les dons que tu nous as faits. À la fois chacun, dans nos particularités, mais aussi ensemble, en tant que peuple, en tant qu'Église dans cette ville. Seigneur, puisses-tu nous renouveler, puisses-tu nous montrer aussi dans quelle direction tu veux nous inviter encore à poursuivre ce chemin avec toi tout au long de cette année, afin que nous puissions le faire humblement, afin que nous puissions le faire pour ta gloire, et pour que ce soit ton évangile qui soit mis en avant devant tous. Seigneur, oui, saisis-toi de nous. Puisses-tu encore, par la puissance de ton esprit, nous mettre en route. Puisses-tu nous rassasier afin que nous puissions continuer le chemin avec toi et persévérer jusqu'au bout, sans jamais regarder en arrière. Seigneur, oui, que ta main repose sur cette Église, que ta main repose sur chacun de nous, plus anciens comme les plus jeunes, afin que ce soit en tant que peuple aussi, que nous puissions t'honorer, que nous puissions te glorifier et te servir, en espérant que tu seras aussi heureux de ce que nous aurons pu faire pour toi au jour de ton retour. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus ton Fils que nous t'avons prié. Amen.